Voilà, mesdames, mademoiselles. Alors nous avons déjà vu, alors c'est toujours Pidos qui nous parle du problème moral et pédagogique de la mode, enseignement pontificant, introduit par et commenté par Madame Elisabeth Van Eck. Voilà. Alors nous avons déjà, si vous avez toujours cette feuille, bon, si vous avez oublié, c'est pas grave. Alors nous avons déjà vu sur quel fondement repose la doctrine de l'Église concernant la mode. On a vu dans la section première, ce sont des fondements avec un S à la fin, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a deux couches, une couche inférieure, disons naturelle, c'est la dignité du corps humain, alors on parle de choses qui sont tout à fait naturelles, voilà. Et une couche supérieure, surnaturelle, c'est la morale chrétienne. Nous connaissons maintenant aussi la triple finalité du vêtement qui est... Je vous écoute. Qui est... L'hygiène. Ensuite...
L'entretien.
La pudeur. Et... Ce qui touche surtout les Françaises. Hein? Bonne... Présentation. Voilà. Très bien, simple. Et parmi ces trois, celle qui tient la primauté est...
Et
la pudeur. La pudeur, voilà. Bon. Alors, nous sommes alors en possession de tous les éléments qui nous permettent d'aborder le problème de la mode. Mais avant, qu'est-ce que la mode? Qu'est-ce que la mode? Alors, le petit Larousse... Le nouveau petit Larousse de l'année 68. Nous dit la mode. Usage passager qui règle, selon le goût du moment, la manière de vivre, de s'habiller, etc. Voilà, ça c'est le petit Larousse. Bon, c'est tout à fait correct. Hein. Et sa sainteté Pidose, il répond... dans son allocution au congrès international de la haute couture, c'est le document que je vous ai passé, voilà ce qu'il nous dit là-dessus. Le vêtement a son propre langage, langage multiple et suggestif, ou bien multiforme, efficace, parfois spontané et par conséquent fidèle interprète de sentiments et de coutumes, parfois aussi conventionnel et artificiel, je sais pas, un vêtement d'un médecin d'autrefois ou d'un soldat, voilà, ça c'est d'un conventionnel, ou d'un prêtre, voilà. moins. Bon. De toute manière, c'est important, de toute manière, il est donné aux vêtements d'exprimer la joie et le deuil, l'autorité et la puissance, l'orgueil et la simplicité, la richesse et la pauvreté, le sacré, je sais pas, et le profane. D'accord? Alors ça fait penser tout petit peu... si vous voulez bien, ça m'a fait penser tout petit peu d'une sorte d'expression, d'exprimer quelque chose. Mais aussi, ça fait penser tout petit peu de langage du corps. Voilà. Parfois, on ne fait pas attention, mais il y a tout un langage de notre corps qui nous dit quelque chose. Alors, ça sera très court. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous voyez un monsieur qui fait ça. Qu'est-ce que vous dites? Voilà. Les jambes raides qui sont liées, qu'est-ce que ça signifie?
Ben, il est au garde à vous, peut-être.
Cette position exprime une attitude neutre. Neutre. Ouais. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose, c'est un gendarme. Hein? Cette position permet d'émettre un signal de domination, exprimant ainsi notre présence. Moi, je suis là. C'est ça. C'est différent. Le pied en avant. Le poids du corps est déplacé sur une hanche, avançant donc le pied en avant. Cette posture indique souvent la direction que notre cerveau aimerait prendre. Si le pied de votre interlocuteur pointe vers la porte, Je regardais par notre porte, je suis toujours là. Quand vous lui parliez, il y a de grandes chances pour que votre discours l'ennuie.
C'est ça.
Et tout le cas, c'est un cas de figure, c'est le 4. Hein. Les jambes croisées, ce geste traduit une attitude fermée, soumise ou défensive. Encore. Voilà. Regardez bien ce qu'il a, voilà, ce qu'il fait.
Il a envie de boxer. Hein.
Vous avez tout à fait raison, madame. Oui. Le croisement des bras renforcé. Voilà. La posture des bras croisés, poings serrés, ajoute de l'hostilité à l'autodéfense. Voilà. Bon. Est tout petit peu différent. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le numéro 6. La double prise des bras. Ce geste est un signal fort. Une demande de protection massive face à une situation perçue comme difficile, gênante, voire désespérée. Et ça, c'est plus ou moins pareil.
Oui, c'est pareil. Ça.
Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, les mains qui changent, elles sont plus bas. Elles sont plus bas. Le croisement des bras au coude, ce signal est révélateur d'une angoisse face à la situation présente. D'accord? Peut-être la dernière. Prenons ça. Pour ça, c'est facile. Attendez. Ça, c'est facile. Ça, c'est pour les étudiants.
Ah, oh, ils sont mal à la tête.
Non, oui.
Voilà. La main soutient le front. Voilà. Quand la main vient se poser sur le front, comme une sorte de cataplasme, l'intelligence dérape, la logique pédale dans la semoule, bon, etc. On retrouve souvent cette posture chez les étudiants, qui ne comprennent rien à ce qu'ils viennent de lire. Ils viennent de lire. Et ça. C'est la main du juge. Ce geste représente le sens critique. Vous me dites quelque chose, votre jupe est assez longue. Hein? Voilà, c'est un geste d'évaluation. Ensuite,
il
y a. Il
est songeur.
C'est numéro 11. L'index barbichette. Il s'agit là d'un geste traduisant un scepticisme latent. Latent. Bon, oui, alors notre corps nous parle. Notre vêtement nous parle aussi. Il exprime aussi quelque chose. D'accord? Je ferme la parenthèse. Alors, la mode, comme tout art, est un langage, un moyen d'expression. Notre vêtement donne une certaine idée de ce que nous sommes intérieurement. On dit d'ailleurs le plumage
est l'apanage.
Non, le plumage fait l'oiseau.
Oui, c'est l'oiseau.
C'est l'oiseau.
C'est pas mal. C'est
je sais pas qui a inventé, moi je sais mon site. Le vêtement peut exprimer le meilleur comme le pire de l'homme. L'éclat, le luxe, la recherche de l'effet dans le vêtement. L'excès de parure manifeste suffisance, vanité, égoïsme, désir de dominer. En revanche, la sobriété est l'harmonie des tons. D'accord? C'est pas la question de la musique, l'harmonie des tons. Je demandais au frère Bernard Marie, notre frère qui s'occupe aussi de l'art, ce que ça veut dire, m'a expliqué, mais je pense que ça va, vous comprenez? D'accord, harmonie des tons et des formes peuvent inviter les autres à la simplicité, à la loyauté, à l'humilité, à la délicatesse des sentiments, à la discrétion morale. Vous voyez? Même ce, pour votre serviteur, moi je voyais la différence quand je parlais avec mes parents avant de, à la maison encore, ensuite quand je me suis présenté avec un habit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord. Et maintenant, citons de l'allocution de Pie XII, toujours pour la haute couture, le passage clé, la meilleure analyse de ce qu'est la mode, de ce qu'est la mode, à quoi elle sert. C'est important. Rehausser la beauté physique, ou bien donner un relief, rehausser la beauté physique. Telle est la fonction express de la mode. En soi, c'est ça. De l'observation approfondie du phénomène de la mode, continue le pape, il résulte qu'elle n'est pas une bizarrerie de forme. C'est pas quelque chose, voilà, je fais ça, c'est un exercice de géométrie, voilà, de couleurs, etc. Non, mais un point de rencontre de différents facteurs psychologiques et moraux. Psychologiques et moraux. Tels que le goût du beau, la soif de nouveauté, tout nouveau, tout beau, l'affirmation de la personnalité, hein, le rejet de la monotonie, non moins que le luxe, l'ambition, la vanité. Le plumage fait le voisin. Voilà la mode, c'est compliqué, ou plutôt c'est un phénomène qui est complexe. En particulier, elle est un grand moyen de rehausser, voilà, donner un relief à la beauté physique. Ce qui en soi...
Bonjour mon père.
Bonjour
mesdames. Excusez-moi. Avec Jean, il y a des problèmes de frères, de fleurs et de frères. Et mon frère n'est pas là, donc les fleurs, je sais pas, elles sont sans eau pendant une heure. Si éventuellement vous pouvez faire passer le message.
On est à la mode. Dans la mode. Alors c'est toujours Pidouze. Et c'est le chapitre 4, comment se pose le problème de la mode. Alors on a commencé à voir avec Pidouze, qu'est-ce que la mode ? Qu'est-ce que la mode ? Elle sert à rehausser la beauté physique. Voilà. Voilà. Alors, on a dit que ce rehaussement, si on veut dire comme ça, ou ce mise en relief de la beauté physique, est quelque chose qu'on soit qui est bon, qui est bon. Voilà. Et puis 12, le mouvement de la mode n'a en lui-même rien de mauvais. En lui-même, rien de mauvais. Il naît spontanément de la sociabilité humaine, homme comme un animal social, suivant l'impulsion qui incline à se mettre en harmonie avec ses semblables, et avec les habitudes des personnes parmi lesquelles on vit. En soi, c'est-à-dire qu'on fait une idée générale. On va voir ensuite que ça se complique parfois. D'accord ? En soi, c'est ça. En soi, le mouvement de la mode n'a rien en lui-même de mauvais. En soi. Alors, existe-t-il vraiment un problème moral au sujet d'un fait aussi extérieur, contingent et relatif, que la mode? Alors, Pidouze de répondre toujours son allocution à la haute couture. Une grande citation. Ne vous inquiétez pas, ensuite on va découper en parties. Maintenant, on va voir un peu en général de quoi s'agit-il. Nous ne voulons pas ici déplorer l'insistance de nombreux contemporains dans leur effort pour soustraire au domaine moral les activités extérieures de l'homme, comme si elle appartenait à un autre univers, et comme si l'homme lui-même n'en était le sujet, le terme, et par conséquent le responsable devant le souverain ordonnateur de toutes choses. Il est bien vrai que la mode, comme tout l'art, la science, la politique et des activités semblables, dites profanes, ont leurs règles propres pour atteindre les finalités immédiates auxquelles elles sont destinées. Toutefois, leur sujet est invariablement l'homme, qui ne peut, lui, faire abstraction de son obligation de diriger ses activités vers sa fin dernière et suprême, à laquelle il est lui-même essentiellement et totalement ordonné. Il existe donc un problème moral de la mode, non seulement en tant qu'activité génériquement humaine, mais d'une manière plus particulière, en tant qu'elle se développe dans un domaine commun à d'évidentes valeurs morales, ou au moins très proche d'elles. Et plus encore, en tant que le but ou les buts de la mode, en être en soi, sont plus exposés à être confondus par les inclinations mauvaises de la nature humaine déchue par la faute originelle et transformée en occasion de péché et de scandale. Bon, phrase un peu longue, maintenant on va découper. Pas de panique. Il y a donc un problème moral de la mode, et ceci pour trois raisons. La mode est une activité humaine. La mode engage des valeurs morales. Troisièmement, les buts de la mode, en est en soi, on a vu, sont exposés aux tendances mauvaises qui résident en l'homme. Ils sont exposés. Tous les mots sont bien pesés. Nous allons expliquer chacun de ces trois raisons. La mode est une activité humaine. Alors, toute activité humaine a pour sujet l'homme. Voilà, c'est votre serviteur qui vous parle. Au moins, il essaie de parler. C'est-à-dire, est accompli par une personne qui est responsable de ses actes devant Dieu. Devant le peuple aussi. Voilà. C'est la même chose. Mais aussi, toute action a pour l'objet l'homme. Pour l'objet l'homme. Votre serviteur parle à vous. Et il faut bien savoir qu'il n'y a pas d'acte insignifiant, indifférent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Celui-là, je pourrais vous expliquer, ça va prendre 5 minutes en plus, mais si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas d'actions qui sont indifférentes, on peut poursuivre. Indifférentes, moralement. Il n'y a pas d'actions moralement indifférentes. Attention.
Soit elles sont faites pour...
Alors, je vois qu'il faut expliquer.
Parce qu'il y en a qui sont droits, puis il y en a qui sont pour...
Tout dépend ce qu'on apprend. Oui, si on veut mettre du bleu ou mettre du rouge, c'est quand même indifférent. C'est neutre.
J'explique. Je vois que je viens. D'accord. Alors, il y a trois principes qui spécifient une action. Ne vous inquiétez pas. L'objet, la fin et les circonstances. C'est compliqué tout petit peu. L'objet. Le premier élément qui confère à l'action humaine une moralité fondamentale essentielle, c'est son objet. Exemple. Voilà. Vous surprenez un enfant, votre enfant ou un autre enfant, en train de lire quelque chose en cachette. Voilà. La première chose qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il lit. Et non pas qu'il lit quelque chose, en soi c'est bien, mais qu'est-ce que vous lisez, mon petit? Montrez-moi votre livre. Qu'est-ce que vous lisez? Un roman policier, un magazine, suspect, ou l'évangile. C'est pas pareil. C'est l'objet, d'accord? Alors parfois cet objet suffit à qualifier essentiellement la moralité d'un acte. Blasphème, haine, c'est toujours mauvais. D'accord? Toujours mauvais. Il n'y a pas d'exception. Ou pour nous, exemple, une jupe ou une mini-jupe. D'accord, c'est un objet. Bon. D'accord, ça c'est objet. Ensuite, la moralité de l'objet est très importante, mais elle l'est moins que celle de l'intention. De l'intention. Voilà, l'intention, la fin, le motif pour lequel on le fait. D'accord, c'est pas la même chose. La même action matérielle peut revêtir des moralités différentes selon le motif qui l'inspire. Prenons l'exemple de notre enfant. Un enfant peut lire un livre excellent, évangile. Il peut le lire dans le seul but de satisfaire sa curiosité. C'est pas bon quand même. Une curiosité, c'est pas bon. Ou bien pour éviter la punition.
Culture. Bon.
Ou bien pour plaire à Dieu. N'est-ce pas? Bon. Il faut donc dire que l'intention ou la fin spécifie encore plus formellement, plus fortement, une action que son objet. Une intention excellente peut augmenter la valeur morale d'un acte bon et suffire à spécifier un acte indifférent. Un acte indifférent, je ne sais pas, d'aller nous promener. Oh non, ça c'est bon en soi. Ouais. Un acte indifférent, bon, je ne sais pas. C'est un peu difficile de trouver un acte indifférent. Voilà, c'est de gratter la barbe. Voilà, parce qu'il y a, bon, il y a un extrait, ou je ne sais pas, de faire comme ça. Voilà. Bon. Mais on peut aussi se gratter la barbe en disant, bon, vous m'ennuyez tout petit peu. Bon.
C'est l'intention.
Bon. Mais c'est toujours matériellement la même chose.
Ah, oui.
D'accord. Mais jamais, attention, mais jamais une bonne intention ne rectifiera un acte essentiellement mauvais. D'accord ?
Oui.
Ça va ? Bon. Et les circonstances. Bon. Les circonstances, c'est quoi ? C'est le lieu, la manière d'être, la durée. Voilà. On donne quelque chose à quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce qu'on donne ? Un don. Ça, c'est l'objet. Pourquoi est-ce qu'on donne ? Voilà, donc l'intention, voilà, c'est la fin pour laquelle on le fait. On peut donner une chose parce qu'on est reconnaissant, ou bien on veut, je ne sais pas, que quelqu'un fasse quelque chose de mauvais, par exemple, parce que je lui donne, je ne sais pas, de l'argent. Voilà. Bon. Il est utile aussi de savoir la quantité de la somme donnée, ce n'est pas la même chose, hein, voilà. Ou la qualité du donateur, ce n'est pas la même chose, voilà. La manière dont le geste est exécuté. N'est-ce pas? Voilà. Le lieu, la date de cette action. Je ne sais pas, on rend quelque chose juste après ou on rend après 20 ans. C'est pas une chose. Et notre Seigneur le voyait très bien. Notre Seigneur louait l'obol de la pauvre veuve au trésor du temple. Et l'offrande de celle-ci valait plus, voilà, valait plus que la grosse offrande du riche. Alors, pour notre histoire de jupe, une mini-jupe, mettre une jupe, une mini-jupe à la maison de Dieu, en ville, etc. Vous voyez ? C'est la même chose. Bon. Ça va ? Est-ce que c'était... Bon, je pense que c'était intéressant d'ajouter.
Oui,
ça va ? Bon. Écoutons Pidouze, qui exprime le sens du travail à des maîtres tailleurs. Je vais vous donner, je vais vous présenter à la fin ce texte complet, vous pourrez le prendre si vous voulez bien. Alors, c'est un autre texte à des maîtres tailleurs, congrès international en 1954.
Congrès international des maîtres tailleurs, mm-hmm. Devant le pape, c'est extraordinaire.
Mais tout cela est extraordinaire, non, madame, c'est pas le temps de...
Non, mais aujourd'hui, on n'a plus ça, enfin, je sais pas, je suis pas non plus, je suis pas la
question. Et vous écoutez ce qu'il dit, et vous écoutez ce qu'il dit, il ne dit pas, bon, pas de bêtises, voilà. Ça, c'est un peu long, mais c'est bon. Il vous appartient, il s'adresse au maître tailleur, il vous appartient de compléter l'œuvre du Créateur en fournissant à vos semblables le vêtement dont ils ont besoin. C'est bon. Le Christ, faisant un jour admirer à ses disciples la délicate parure d'une simple fleur des champs, leur dit « Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme l'une d'entre elles. Si donc les plantes et les animaux se revêtent de merveilleuses couleurs qui attirent le regard et forcent l'admiration, l'homme ne peut-il en cela imiter l'artiste divin ?» Vous travaillez immédiatement, hein, c'est un peu plus loin, vous travaillez immédiatement au service de la personne humaine. Il va expliquer en quoi consiste cette personne humaine. Voilà. Élevée par Dieu à une dignité incomparable, lorsque par son incarnation, il est devenu membre de l'humanité, dans le plus humble de vos semblables, resplendit l'image du Fils de Dieu. Et ça, c'est encore plus bon. Comme la main maternelle de la Vierge se sont employés à confectionner les habits du Christ, ce Dieu que vous continuez à vêtir dans les âmes d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas là d'un pur symbolisme. Dans un des passages les plus solennels de l'Évangile, l'annonce du jugement dernier, le Christ fait expressément allusion à cette œuvre de charité. Charité. Venez prendre possession du royaume qui vous est préparé, dit-il à ses élus, car j'étais nu et vous m'avez vêtu. Et il ajoute, chaque fois, en effet, que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. C'est beau, c'est beau. Bon. La mode engage des valeurs morales. D'accord ? On a vu que la mode est une activité humaine. Je pense que ça, c'est clair. La mode engage des valeurs morales. La mode doit être, pour toute la population qu'elle atteint, créateur de la mode, modéliste, couturier, couturière, les usagers, artistes, artisans, industriels, commerçants, éditeurs, critiques, travailleurs, travailleuses, etc. Pour eux tous, l'amant doit être moyen pratique et occasion d'aimer et de servir Dieu et le prochain. Moyen d'orienter la société tout entière vers le mœurs qui exprime le style de vie d'enfant de Dieu. L'amant doit concourir à plus d'honnêteté dans le mœurs, à plus de décence, à plus de joie chrétienne. Et le but de la mode, on est en soi, on a vu. Le but de la mode, c'est quoi? Vous vous souvenez? Le premier but de la mode, qui est honnête.
Rehausser
la beauté. Rehausser la beauté. Rehausser, mettre la beauté, le mettre du relief, le mettre en relief, la beauté physique.
Que tu as donné.
Le but de la mode, on est en soi, court de graves risques. Voilà. Tous, nous restons aux prises avec la triple conséquence du péché originel. Tout homme sent en lui le désir de dominer, de posséder et de jouir. La mode usée, elle use toujours, parfois, ces trois tendances pour nous entraîner vers le mal. C'est la raison pour laquelle l'Église traitait la mode de suspecte. Elle a jugé sévèrement. Manifestation qui attestait sa sollicitude maternelle pour le bien des âmes. C'est moins pour ça. Cependant, le christianisme n'exige pas d'une sorte d'abjuration absolue du soin de la personne physique et de sa parure extérieure. C'est pour cela que Pilous ajoute, toujours à l'allocution à la haute couture, « L'Église ne blâme ni ne condamne la mode quand elle est destinée, apparaît et ornée comme il convient le corps. » C'est « comme il convient » qui pose le problème. D'accord. « Comme il convient », cela veut dire « employer les choses extérieures, dont les vêtements, avec sagesse, tact, bon sens, s'alliant avec la grâce de Dieu. » Alors, on a vu déjà qu'il y a un problème, d'accord ? C'est comme notre voiture, il ne marche pas, il y a un problème, d'accord ? Maintenant, on va voir en quoi consiste le problème de la mode. En quoi consiste le problème de la mode ? Et surtout, comment le résoudre ? On va ouvrir le capot. Pidouze y répond brièvement. Concilier dans un harmonieux équilibre l'ornement extérieur avec la parure. Maintenant, c'est la citation de Saint-Pierre, c'est pour ça que c'est un petit peu poétique, peut-être. Concilier dans un harmonieux équilibre l'ornement extérieur avec la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. Alors cela constitue le problème de la mode. Voilà. Trouver un équilibre entre l'ornement extérieur et l'ornement intérieur. Le problème de la mode est un problème d'expression. On a vu tout petit peu avec le langage du corps. D'accord. Problème d'expression. Vous étiez là, non?
Non, je
vous ferai ensuite. Une devinette. Il s'agit d'exprimer au dehors, jusque dans l'ornement extérieur, ce que le chrétien est dans son être profond. Dans son être profond. Voilà. Ça me fait toujours penser à Saint François de Sales quand il disait par rapport à la modestie. Vous voyez, il parlait seulement secondement que les dames, jeunes filles s'habillent correctement. D'abord, il insistait que commence à vivre intérieurement une vie pleinement chrétienne. Parce qu'ensuite, c'est plus facile et c'est plus naturel. D'accord? C'est plus. Parce que si un ornement extérieur exprime l'ornement intérieur, il faut soigner d'abord l'intérieur. D'accord? Continue. Épi XII en parle dans son allocution au maître tailleur. Très très bon. La robe blanche d'une enfant au matin de sa première communion. Imaginons. Celle de la jeune femme au jour de son mariage. Ne symbolise-t-elle pas l'éclat tout immatériel d'une âme qui offre le meilleur d'elle-même? Ça dit quelque chose? Voilà, ça dit quelque chose. Et ailleurs, selon la parole de l'Évangile, l'entrée dans le royaume des cieux n'est-elle pas réservée à ceux-là seuls qui porteront le mystérieux vêtement de noces que Dieu exige de ses invités? Mais comment maintenir cet harmonieux équilibre? La réalisation et le maintien de cet harmonieux équilibre suppose la liberté. Liberté. Mais non pas n'importe quelle liberté, mais celle des enfants de Dieu. Je vous donne la définition. Ça vient du glossaire de Mgr Lefebvre, de son livre « La vie spirituelle », qui est très bon. Vous avez peut-être déjà lu. Il y a un petit papier, qui est très très bien fait. Alors, la liberté. Liberté, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté donnée à l'homme pour lui permettre de se mouvoir volontairement dans le bien et atteindre ainsi sa fin dernière, qui est Dieu. La liberté ne porte donc pas sur le choix de la fin ultime. Non, il n'y a pas à choisir, puisque l'homme est fait pour Dieu, mais uniquement sur le choix des moyens honnêtes qui lui permettront de l'atteindre. D'accord? Alors on confond souvent liberté avec libéralisme. Bon, libéralisme absolu est le dérèglement de la liberté dans tous les domaines. C'est le refus de dépendre d'un autre que soi. C'est toujours un peu ça. Voilà. C'est moi qui ai le premier. Alors qu'il s'agit ici de la liberté des enfants de Dieu. D'accord. Laissez à elle-même. Si vous avez trop chaud, on peut ouvrir tout petit peu la porte. C'est la démocratie, vous devez vous juger. Oui. On peut voir un petit peu si c'est un circuit. Ou bien on peut ouvrir ça et faire ça.
Du coup, il n'y aura plus grand air.
Non, ça va. Ça va?
Faut voir,
bon,
avec le temps.
Faut dire. Bon.
Ah, d'accord. Avec le temps. Bon. Moi, je pars à midi, là.
Zut.
Ça peut aller vite.
Laissez à elle-même la nature humaine, blessée par le péché, cherche, entre autres, dans une mode désordonnée, un prétexte, pour satisfaire la convoitise des passions charnelles, au point d'en devenir esclave. Laissez elle-même, voilà. Où est l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur, là seulement est la vraie liberté. Et plus forte est l'emprise de l'Esprit, avec un E majuscule, sur une âme, plus celle est libre. Voilà. Et voici le fruit de cette liberté, c'est l'harmonieux équilibre. Alors, quelques aspects de cet harmonieux équilibre. Amabilité sans mièvrerie, élégance sans recherche, non seulement dans le vêtement, mais dans le geste et dans la parole. Encore, rien de négatif dans le comportement de la personne ainsi équilibrée. Son aspect ne porte ombrage à personne. Sa distinction, la correction, ou la beauté de ce vêtement, son rayonnement, sa grâce, fait au contraire honneur et plaisir à tous ceux qu'elle rencontre. Elle n'attire ni les regards, ni l'intérêt de l'entourage au détriment d'autres, dont le rôle présent serait plus important que le sien. Elle a le secret de mettre chacun et toute chose à leur place, de rester dans l'ombre ou de paraître au moment voulu. Charité, joie, patience, paix, douceur, maîtrise de soi, compassion, tempérance, force font de sa commerce une joie sans cesse renouvelée. Un équilibre, un équilibre. Mais cette parfaite liberté, ou cette liberté parfaite, ne s'obtient ni ne se maintient sans lutte. Sans lutte. Et pourquoi ?
Très bien.
Parce que nous gardons en notre nature fragile la conséquence et la blessure du péché originel. Avec l'ignorance dans l'intelligence, avec la malice dans la volonté, l'avidité du plaisir et la faiblesse à l'égard du bien ardu dans les passions des sens. Autant de faiblesses de notre part, autant de misère, autant aussi de force même de Dieu, force puisée au trésor sacramental, surtout dans le sacrement de pénitence, source de renouvellement, de force, de victoire surnaturelle, mais pas tout seul. On pourrait se dire, chic, je n'ai que bien communier, bien faire la pénitence, je n'ai rien à faire. Cette nouvelle force ne nous dispense cependant pas de rester sur nos gardes. Comme notre Seigneur disait, vigilate et orate, il dit, faites attention, restez sur vos gardes et priez. En soi, c'est surprenant, il pourrait dire, priez, éveillez, non, veillez et priez. Elle nous incite, cette nouvelle force, au contraire, à tenir allumée, en notre nature fragile, la lampe de la vigilance, surtout en ce domaine délicat et complexe qu'est celui de la mode. D'ailleurs, l'Église a le devoir de nous mettre tous en garde contre les égarements dans lesquels la mode tombe si facilement. Pie 12, à la haute couture. L'Église sait et enseigne que le corps humain, chef-d'œuvre de Dieu dans le monde visible, au service de l'âme, a été élevé par le divin Rédempteur pour être un temple et l'instrument de l'Esprit Saint, et comme tel, il doit être respecté. Sa beauté ne doit pas, par conséquent, être exaltée comme une fin en soi, et encore moins doit-elle avilir cette dignité qu'il a acquise. Sur le terrain concret, il est indéniable, incontestable, que, à côté d'une mode honnête, il y en a une indécente, cause de troubles dans les esprits ordonnés, quand elle n'est pas aussi cause d'excitation au mal. Au mal. Et on objecte, je vous montre ce qu'on objecte. On objecte ça. Vous voyez bien. La modestie vestimentaire ne convient plus à notre époque. De toute façon, ça change. De toute façon, bon, le numéro 30, 32, c'est pas terrible. C'est pas terrible.
L'Église a toujours été obligée de se battre.
Mais c'est pas parce que ça change qu'on peut changer en mauvais aussi. On peut changer en bien. Alors,
puis il y a toujours eu.
Alors l'objection, la modestie vestimentaire ne convient plus à notre époque. Notre époque, désormais affranchie des scrupules inutiles et nuisibles, et les défenseurs, voilà, les pères d'une mode décente, sont des gens bornés à l'esprit étroit. Voilà. Pie 12 connaît cette objection et y répond. Un instinct plus subtil, en face des pièges du mal, ici comme ailleurs, bien loin de constituer un titre de blâme, on n'est pas borné, on n'est pas étroit. Comme s'il s'agissait seulement de l'effet d'une dépravation intérieure, et, au contraire, la marque de la pureté d'âme et de la vigilance sur les passions. C'est bien, c'est bien. Pie 12 à la haute couture. Nous sommes toujours dans le en quoi consiste le problème de la mode. On a déjà vu que maintenir cet harmonieux équilibre suppose la liberté des enfants de Dieu. On a dit que pas de vraie liberté sans lutte. Nous avons dit que la lampe de la vigilance va rester allumée. la dernière chose. Pidouze conclut sa remarque sur la relativité de la mode. Si vaste et si instable, si mouvante que puisse être la relativité de la mode. Il dit, d'accord, la mode est relative, mais il y a toujours quelque chose. Il va continuer. Si vaste et si instable que puisse être la relativité de la mode, merci. D'accord, oui, merci. Je répète la troisième fois, ça va entrer. Si vaste et si instable que puisse être la relativité de la mode, il existe toujours un absolu à sauver. Un absolu à sauver. Après avoir écouté l'avertissement de la conscience prévenant du péril. Et maintenant, ce qui est très important, la mode ne doit jamais fournir une occasion prochaine de péché. La mode ne doit jamais fournir une occasion prochaine de péché. Impossible. Impossible. En tant que créé à l'image de Dieu, je finis la citation, c'est à la haute couture. En tant que créé à l'image de Dieu, nous savons à nous témoigner les uns aux autres et à nous-mêmes le plus profond respect. Le plus profond respect. Nous formons, en tant que, excusez-moi pour l'expression, mais j'aime beaucoup, en tant qu'animaux sociaux, d'accord, animaux sociaux, une société d'êtres raisonnables qui exerce les uns sur les autres une influence pour le bien ou pour le mal. Nous sommes solidairement responsables de mœurs ou de mœurs générales. Et la pudeur et la modestie, tout comme la sobriété, ont un côté social. Social. Comme ça. Tout péché est donc non seulement injure à la loi de Dieu, inscrite, la loi de Dieu qui est inscrite en nos cœurs, mais une injure à la dignité, à une vraie dignité, et à la noblesse de la personne humaine. Une injure au respect profond que nous devons nous témoigner mutuellement. Jusque dans notre façon de nous habiller, nous pouvons exprimer ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Les porteurs d'un esprit doux et paisible, sous la mention de l'Esprit de Dieu, qui veut renouveler à travers nous la face du monde. Voilà. Nous sommes l'instrument de l'Esprit Saint dans le monde, et non pas instrument du monde envers l'Esprit Saint, ça ne marche pas. C'est idiot. C'est idiot. Alors, nous avons vu. Il y a un problème de la mode, il y a un problème. Ensuite, en quoi consiste ce problème et comment le résoudre? Et maintenant, on va voir quels sont les ennemis de la mode honnête. Il y en a trois. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que vous avez une idée.
Déjà nous-mêmes, notre mauvais côté, nos mauvais branches.
Plus concrètement.
Nos passions déréglées.
Concupiscence.
La volonté de plaire, le désir de plaire.
Oui, tout est vrai. La première chose.
La volonté de plaire, c'est pas. Non,
le geste comme ça, ça ne dit pas ça.
Ça oui, mais ça dépend à qui on veut plaire.
Oui. Le geste, oui. Je montre. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Le goût du gain. Le goût du gain.
Personnellement, le goût du gain. Non, la mode, toutes les infos, la mode. Non, ceux qui fabriquent la mode.
Voilà. Alors, on parle des ennemis, d'accord? Des ennemis. Le goût du gain, premièrement. Ensuite,
oui, ceux qui fabriquent.
Mm-hmm. Ensuite,
la perversion.
Le désir de séduction. Mm-hmm. Ah, c'est encore plus bas. Et la soif de luxe. La soif du luxe. Alors, le goût du gain. C'est le texte de Pidouze tiré de son allocution à la jeunesse féminine d'Action catholique, 22 mai 1941. Et là-bas, il illustre comment le goût du gain a multiplié les artifices qui excitent les passions. Le progrès de la presse, les éditions à bon marché, comme celles du luxe, les photographies, les illustrations, les reproductions artistiques de toutes formes et couleurs et de tous prix, le cinéma, les spectacles de variété, elles sont autres ou sont autres, je ne sais pas ce qu'il faut faire la liaison, elles sont autres, disons, faisons. Moyen propage, moyen, elles sont autres moyens, propage les appâts du mal et les mettent dans les mains de tous, grands et petits, femmes et filles. N'y a-t-il pas une mode qui s'étale? N'y a-t-il pas une mode qui s'étale aux yeux de tous? Mode audacieuse et malséante à une jeune fille élevée chrétiennement. Le goût du lait. Et tous les créateurs du mode, je ne dis pas de quelle nation sont-ils. Bon, passons. Trois bandes. Passons au point suivant. Le désir de séduction. Voilà. Et notre texte de Pie XII, allocution à la haute couture, souligne comment certains artisans de la mode sont poussés par le désir de la séduction. Alors ça, c'est très fin. Bon, je le lisais plusieurs fois, mais c'est très très fin. Parmi les éléments, oui, c'est ça. Parmi les éléments objectifs qui concourent à former une mode indécente, il y a, en premier lieu, l'intention mauvaise de ses créateurs. Ça, c'est 100%. 100%. Après, le goût du gain. Mais bon. Là où ceux-ci se proposent de provoquer avec leur modèle des visions et des sensations impures, ils font preuve, même sans en venir à l'extrême, d'une technique de malice larvée. Écoutez bien. Ils savent que l'audace en cette matière ne peut être poussée au-delà de certaines limites. Je ne sais pas ce qu'il disait aujourd'hui, je ne sais pas s'il ne faut pas corriger. Mais on commençait toujours à petites choses, voilà. Entre le deux, voilà. Voilà. Ils savent que l'audace en cette matière ne peut être poussée au-delà de certaines limites. Mais ils savent, par ailleurs, que l'effet cherché se trouve à brève distance de celle-ci. Et qu'un habile mélange d'éléments artistiques et sérieux avec d'autres plus bas est bien plus apte à surprendre l'imagination et les sens, tout en rendant le modèle acceptable aux personnes qui désirent le même effet, sans pourtant compromettre, au moins à ceux qui leur semblent, leur bon renom de personnes honnêtes. C'est fin, c'est bon, oh là là, un psychologue. La conclusion, ah ça c'est important, l'intention poursuivie ici, tout du côté des créateurs de la mode, que du côté des usagers, est mauvaise, quoique dissimulée. La rectification s'impose chez les uns comme chez les autres. Je ne sais pas si on peut demander chez les créateurs de ce... Bon, sauf miracle, hein. Mais de notre côté, on peut faire quelque chose. Alors, tout assainissement. Alors, dans une autre traduction, il dit épuration. Je pense épuration, une connotation en France qui est comme ça. Alors, on utilise ici tout assainissement de la mode doit commencer par rectifier l'intention, aussi bien de celui qui crée la mode que de celui qui la porte, en réveillant chez l'un et l'autre le sentiment de ses responsabilités devant les conséquences néfastes qui peuvent découler d'un habillement trop posé ou trop hardi. Tout simplement, si on sait que ce vêtement est mauvais en soi, ou il fait avec une mauvaise intention, on n'est pas justifié de le porter en se disant « Moi, j'ai une bonne intention. Moi, je suis quitte. Moi, je suis immaculé. »
Oh bah, oh. Une robe d'eau nue, une jupe, oh. On se dit, la personne qui l'a fait, c'est sans doute pas pour imiter les religieuses. Hein.
Oh, oui.
Voilà, c'est pas...
Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, c'est vrai que ça, c'est flagrant.
Voilà, après, c'est sûr.
Maintenant, dans notre monde de fous, hein, les gens, ils travaillent pour gagner de l'argent. Ils ne font pas leur métier par amour. Donc après, tout est empesté de ce défaut.
On regarde l'idéal. L'idéal, là où il faut tendre. Si on laisse un peu dans la porcherie, si on peut dire comme ça, bon, on sera toujours sale.
D'accord ? Les vêtements de la Renaissance, Moyen-Âge, extrêmement luxueux, c'était un signe de puissance.
Oui, on en a parlé. Alors, merci madame, c'est la troisième chose, le troisième ennemi. Oui. Merci. Merci pour l'introduction. C'était pas arrangé, vous voyez, c'était tout naturel.
Voilà. Maintenant, c'est plus la beauté du. Le vêtement n'a plus de beauté.
Bon. Alors, il parle de la troisième ennemi, la soif du luxe. Je pense maintenant, c'est un peu moins, parce qu'on essaie d'égaliser justement, mais oui. Bon.
Citons quand même,
on va voir.
C'est ça.
Mais le domaine de la pudeur n'est pas le seul où la mode rencontre de graves problèmes. Elle cède parfois à une recherche excessive du luxe. Le luxe en tant que somptuosité excessive, faste. Voilà. Toujours P12 à la haute couture.
Et qu'est-ce qui est le plus grave en tout ça ? Entre ces trois
On va voir.
Entre la peste et le choléra, quel est le plus grave?
Ce sont des ennemis, voilà.
On met la tête à zéro. Alors, vous prêtez.
On va citer Pidouze, ensuite on va parler, si vous voulez, d'accord? Sans parler du gaspillage des richesses que le luxe excessif exige de ses adorateurs. Voilà, il dit en masculin, alors. Destinés pour la plupart à être dévorés par lui. Je reprends parce que j'ai l'impression que je m'appuie. Sans parler du gaspillage des richesses que le luxe excessif exige de ses adorateurs destinés pour la plupart à être dévorés par lui, voilà, par ce luxe, il est toujours une offense à l'honnêteté de celui qui vit de son propre travail, en même temps qu'il révèle une mentalité cynique à l'égard de la pauvreté, soit en dénonçant des gains trop faciles, soit en semant des soupçons sur la conduite de celui qui s'en entoure. Là où la conscience morale ne parvient pas à modérer l'usage des richesses, fussent-elles honnêtement acquises, ou bien de terribles barrières se dressent entre les classes, ou bien la société tout entière ira à la dérive, épuisé par la course vers l'utopie du bonheur matériel. Bon, je pense que ce dernier aspect est moins important aujourd'hui. Voilà, il me semble. Mais le but du gain, ça existe toujours, ça va exister jusqu'au bout. Et le désir de pervertir la mœurs aussi, je suis désolé. À la vision chrétienne du problème de la mode, l'Église ajoute des principes et des directives pratiques. Directives pratiques inspirées par ceux de notre divin maître. À suivre. Bon, je t'en